des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission spéciale puisque nous recevons le roi du roman anglais, le maître de la satire, l'un des meilleurs observateurs du Royaume-Uni, l'est-il encore d'ailleurs si uni ? On lui demandera. J'ai nommé Jonathan Coe, l'auteur de Bienvenue au Club, du Cercle Fermé, de La Maison du Sommeil et bien sûr de Testament à l'anglaise. Bonjour Jonathan.
Hello Christophe, nice to be here.
Yes, nice to be with you. On est très heureux, vraiment, de passer cette heure avec vous, car vous êtes de retour avec un nouveau roman, numéro 11, traduit par José Camoun, qui paraît chez Gallimard, et c'est un livre qui tombe bien, parce qu'il fait le pont entre l'Angleterre des années Thatcher, celle de Testament à l'anglaise, et l'Angleterre d'aujourd'hui, celle des années 2010, qui, avec le Brexit, a fait tonner dans le ciel occidental le premier coup de canon de ce qu'on a appelé soit une revanche des peuples, soit, pour les autres, un populisme. Et je voudrais commencer par cela, Jonathan Coe, avec vous, après avoir salué, comme il se doit, celui qui va vous interpréter aujourd'hui, l'excellent Michel Zlotowski. Bonjour Michel.
Bonjour.
Oui, je voudrais commencer avec ça, avec vous, car nous avons la chance, aujourd'hui, de recevoir un écrivain, mais aussi un écrivain qui se passionne pour la chose publique, pour la politique, et dont les romans ont dit la politique menée ces dernières années dans son pays. Des romans qui ont constitué des personnages à partir de cette politique. Pensons à la fameuse famille Winshaw ou à ce personnage d'Henry dans Testament à l'anglaise, l'homme politique qui gère la réforme de la sécurité sociale et qui veut transformer l'hôpital en magasin avec un cynisme horrifiant. Alors Jonathan Coe, je voudrais vous demander, les romanciers sont payés pour écrire des fictions. Est-ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui concurrencés, les écrivains, par les hommes politiques ? Je pense à des gens comme Nigel Farage ou à Boris Johnson, qui non seulement ont raconté, pendant, juste avant le Brexit, que par exemple le Royaume-Uni versait 350 millions de livres sterling chaque semaine à l'Union européenne, alors que c'était des fictions, mais en plus ils ont reconnu, dès le lendemain, que c'était des fictions. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de concurrencer les écrivains sur le territoire de la fiction ?
Yes, this is a very, very interesting point, I think, and
C'est une question extrêmement intéressante et quelque chose que j'ai remarqué de plus en plus dans l'analyse journalistique de la politique des chocs des derniers temps, c'est l'apparition de mots comme le storytelling, le narratif.
Et
on se dit aujourd'hui que on a voté pour le Brexit parce que les gens qui étaient pour, eh bien, avaient un meilleur récit, un meilleur narratif. Et puisque vous avez cité son nom, on va dire quelques mots de Boris Johnson, plus particulièrement. C'est un raconteur d'histoire et probablement un des plus talentueux du Royaume-Uni. Une des choses que les gens oublient à son sujet, c'est qu'il a débuté sa carrière en tant que journaliste et il l'a commencé à Bruxelles en tant que correspondant pour le Times, le journal The Times, sur les travaux de l'Union européenne. Il a une sensibilité extrêmement vivante. C'était une mission terriblement difficile parce qu'il devait faire des papiers sur des réunions extrêmement ennuyeuses, sur des votes, sur des réglementations européennes. Donc pour lui et pour ses lecteurs, il a tenté de le rendre plus vivant, son reportage. Il a commencé à raconter des histoires, à en inventer. Il a dit que l'Union européenne était remplie de dingues corrompus qui voulaient nous faire produire des bananes rectilignes plutôt que des bananes courbées. Et soudain, ce genre d'histoire a capturé, a saisi saisit l'imagination des lecteurs au Royaume-Uni. Et soudain, c'est devenu le système par défaut des reportages sur l'Union européenne. Mais c'était une fiction qui a été créée par Boris Johnson, le journaliste. Et maintenant, on fait marche avant rapide, vers 25 ans, vers l'avant, et Boris Johnson est un homme politique très ambitieux. Il a décidé de faire campagne pour le Brexit. Une décision de dernière minute, il faut le souligner, parce qu'il a écrit, et ça a été publié, deux articles dans les journaux qu'il a écrit, un en faveur du Brexit et l'autre contre le Brexit. Il a écrit des deux côtés et il a finalement décidé lequel publier la dernière semaine. Bon, ayant pris sa décision, quelles que soient les raisons qui ont mené à ce choix, peut-être pour des ambitions personnelles, donc il fait campagne, et il fait campagne contre une fiction. Un mirage de l'Union européenne qu'il avait inventé lui-même 20 ans auparavant. C'est vraiment un récit extraordinaire sur la puissance du storytelling. Et vraiment, nous, ça nous met dans l'embarras, nous, les écrivains de fiction.
Je parlais dans l'introduction de cette espèce de dichotomie dans l'analyse des dernières élections qu'on a eues en Europe ou dans le monde occidental, c'est-à-dire le Brexit en Angleterre et la victoire de Donald Trump aux États-Unis. Les uns, Jonathan Coe, parlent de revanche des peuples contre les élites et les autres de populisme. Vous, qui avez consacré une bonne partie de votre œuvre à ausculter les travers, les dérives des gouvernements thatchériens ou Blair, parleriez-vous de revanche des peuples ou de populisme ? Et qu'est-ce que c'est, pour vous, qui avez l'habitude de bâtir des personnages ? Ce fameux peuple, est-ce qu'on est dans la fiction ou est-ce qu'on est dans la réalité?
Well, first of all, I think in both of these cases, the case of Brexit and the case of Trump,
dans les deux cas, le cas du Brexit et le cas de l'élection de Donald Trump, un récit dangereux, un narratif dangereux va émerger, pour utiliser ce mot à nouveau, et on le voit en train d'émerger au Royaume-Uni. Ces changements de direction menés par ces votes dans la politique, ben c'est des tremblements de terre, c'est explosif. Mais les votes eux-mêmes qui les ont rendus possibles sont très marginaux, en fait.
Au
Royaume-Uni, les hommes politiques qui étaient en faveur d'un Brexit dur, parlent de leur victoire extraordinaire, ils parlent de leur mandat démocratique, ils disent qu'ils expriment la volonté du peuple, mais en fait, ils expriment la volonté de 52% du peuple, et ils vont à l'encontre de la volonté de 48% du peuple. Donc bien sûr, c'est la démocratie, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est la façon de fonctionner d'un référendum. Mais il faut faire attention de ce que l'on dit quand on parle de volonté du peuple, parce que dans le cas du Royaume-Uni et des États-Unis, on parle de pays très divisés et de pays divisés 50-50 quasiment.
On a vu, et c'est peut-être vraiment le changement depuis ces dernières années, beaucoup d'écrivains se mobiliser sur la question du Remain ou du Brexit, sur la question aux États-Unis, plusieurs centaines d'écrivains menés par quelqu'un qui ne prend jamais la parole, comme Stephen King, a mené justement la bataille contre Donald Trump au nom du langage. Le langage qui est l'outil de l'écrivain, les mots sont les outils, la matière première de l'écrivain. On sait, Jonathan Coe, que vous êtes très pro-européen, que vous avez pris un coup de massue après le Brexit. Javier Cercas, l'écrivain espagnol, l'auteur de L'Imposteur, qui était un roman sur ce dirigeant anarchiste Enrique Marco, qui avait menti toute sa vie et qui s'était prétendu survivant des camps de concentration, me disait, juste après le Brexit, le sport européen, pendant 1000 ans, ça n'a pas été le foot, on était à l'époque pendant l'Euro de football, mais ça a été la guerre. Et il me disait, malgré cela, on est peut-être fautif, nous les écrivains, de n'avoir pas fait l'Europe de la culture. En littérature, aucun prix littéraire européen. Aucune parution littéraire dans tous les pays européens à la fois pour les grands écrivains. Et on se plaint, nous les écrivains, qu'on ne parle d'Europe qu'en termes économiques, mais en fait, c'est notre faute, peut-être, parce qu'on n'a jamais fait cette Europe des écrivains. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité des écrivains qui, aujourd'hui, n'écrivent plus le grand roman européen? Il n'y a plus cette ambition-là.
C'est très vrai. Nous avons une déconnexion, principalement au Royaume-Uni, peut-être aussi dans d'autres pays européens, je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas d'expérience de première main dans ce domaine. Mais considérons ces idées qui sont tellement fortes. Les élites d'un côté, les masses, le peuple de l'autre côté. En théorie, ça devrait être les écrivains. Une partie de notre travail, ce serait de créer un pont entre ces deux mondes-là. C'est notre travail, plus que jamais. Ça devient un travail extrêmement urgent, d'ailleurs. Pour moi, parmi beaucoup d'autres choses que cette année décisive m'a fait comprendre, ça m'a motivé encore plus contre l'élitisme dans l'écriture. Toute ma vie en tant qu'écrivain, j'ai essayé de rendre mes livres divertissants, accessibles, de les écrire dans un langage qui ne tenait pas le lecteur à l'écart, tout le temps en tentant de faire des compromis sur l'idée de dire la vérité et de rendre les livres du mieux que je puisse le faire un objet complexe et satisfaisant. Pour moi, c'est encore plus important que jamais. Parce que il y a un sentiment très fort chez les gens qui ont voté pour le Brexit, pour les gens qui ont voté pour Donald Trump. Pas simplement que les élites culturelles, parce que c'est vraiment, on parle de culture ici, on ne parle pas d'argent. Que les élites culturelles sont loin du peuple, mais que les élites culturelles les haïssent, les méprisent. C'est peut-être sentimental à dire, mais il faut pouvoir tendre la main à ces gens-là pour que l'on puisse commencer à se comprendre les uns les autres et recommencer à se parler.
Mais quand vous écriviez, il y a 20 ans, Testament à l'anglaise, vous n'étiez pas coupé des préoccupations du peuple, Jonathan Coe. Vous écriviez sur le pouvoir politique, vous écrivez sur la vie quotidienne des gens. Aujourd'hui, avec numéro 11, on va en parler et on va plonger davantage dans le livre dans la deuxième partie de cette émission. Mais vous pratiquez une littérature qui est tout à fait connectée avec le réel des gens. Donc c'est assez difficile de comprendre et de vous entendre finalement presque vous excuser de vous être déconnecté du peuple, du fameux peuple.
C'est
une question qui porte sur la littérature en général.
The sales of my books,
les ventes de mes livres sont relativement importantes comparées à celles d'autres écrivains. J'ai été adapté pour l'écran, pour la télévision, etc. Mais toutefois, je touche un public extrêmement restreint en termes de pourcentage.
Et
il y a des gens à travers le pays qui ne liront jamais un roman, et certainement pas un roman comme les miens, parce qu'ils ne veulent pas se sentir méprisés, ils ne veulent pas qu'on leur dise quoi faire, ils ne veulent pas qu'on leur dise quoi et comment penser. Je ne fais rien de ces choses-là, bien entendu. J'essaye, dans mes livres, de refléter le spectre le plus élargi de la réalité, autant que faire se peut. Mais toutefois, il y a... J'ai vu que cette idée a cru chez les Européens que la littérature était quelque chose de loin, d'éloigné, et qu'elle n'appartenait qu'à une poignée d'élus. Il faut lutter contre cette idée.
Mais vous parlez des lecteurs ou vous parlez des écrivains, Jonathan Coe? Quand vous dites cette idée s'est développée, que la littérature était réservée à quelques élus, c'est quelques lecteurs élus ou ce sont les écrivains eux-mêmes qui se sentent élus et ne parlant qu'à une petite audience?
Je crois que c'est les deux. On parle d'une division culturelle qui s'est incrusté et qui ne fait que croître depuis une centaine d'années, si ce n'est plus. Peut-être que ça a commencé avec le modernisme. Peut-être que ça a commencé avec l'idée que la littérature devrait être de plus en plus raréfiée, de plus en plus exigeante vis-à-vis du lecteur. James Joyce a dit qu'il a passé 17 ans à écrire Finnegan's Wake et le lecteur devrait passer 17 ans à le lire. C'est une déclaration extrêmement élitiste d'une certaine manière.
Est-ce que vous pensez que le jury Nobel, quand il donne le prix Nobel de littérature à Bob Dylan, c'est quelqu'un qui fait des chansons, peut-être un art plus facile, plus massif, puisqu'au fond, l'effort est moins grand que de lire un livre, peut-être. Est-ce que vous pensez que ce jury Nobel, finalement, va dans le sens que vous semblez désigner, en élargissant, finalement, l'audience d'un prix littéraire à un public qui aime aussi les chansons de quelqu'un qui était pas seulement un écrivain?
Je ne sais pas si
le fait de donner le prix Nobel à Bob Dylan est une tendance ou si c'est juste un coup unique, mais c'est un très bon choix. C'est quelqu'un qui est un véritable génie des mots, un grand poète américain, un des grands poètes américains, qui a atteint aussi un public de masse au cours des 40-50 dernières années. Donc c'est un merveilleux choix, c'est très encourageant.
Un éditorialiste de chez vous, Catherine Viner, du Guardian, le grand journal britannique, a repris la théorie en vogue de la post-vérité, post-truth. En gros, les faits aujourd'hui n'auraient plus d'importance. On a beau vivre dans une époque où la technologie nous permet de faire tout le fact-checking, toutes les vérifications factuelles que l'on veut, eh bien les gens ne vérifient pas. Pire, dit-elle, et je voudrais la citer, « quand un fait commence à ressembler à ce que vous sentez pouvoir être vrai, il devient très difficile pour n'importe qui de dire la différence entre les faits qui sont véridiques et les faits qui ne le sont pas. » J'ai eu l'impression, en lisant cette phrase, Jonathan Coe, quand elle dit « raconter des faits qui commencent à ressembler à des faits que l'on pense être vrais », qu'elle parlait du travail d'un romancier. Vous, qui vous inspirez beaucoup de la situation politique et économique de votre pays, est-ce que vous êtes, quand vous écrivez, préoccupé et très vigilant quant à la vérité de ce que vous écrivez? Ou alors, pour que la satire soit bonne, est-ce qu'il ne vaut mieux pas prendre des libertés avec la vérité?
C'est
une question très intéressante. Et ça a été une de mes obsessions au cours des années pour que je puisse faire autant que je le peux, pour que mes romans apparaissent vrais ou soient vrais, pas simplement une vérité poétique, qui est la chose la plus importante, mais aussi parce que je place mes histoires véritablement au cœur de la réalité récente, aussi près que possible. Et en ayant fait ce choix, je sacrifie une grande partie de la liberté que s'octroient les autres écrivains. Je dois coller aux faits. Et parfois, je dévie très légèrement pour des raisons artistiques, des faits, c'est vrai, mais je ne le fais pas très souvent.
Vous venez de parler d'une notion qui est très intéressante, j'aimerais qu'on l'explique un peu avec vous. Vous avez dit le plus important, c'est la vérité poétique d'un roman. Qu'est-ce que c'est que la vérité poétique d'un roman ?
It's the best phrase I can find.
C'est la meilleure définition que je puisse trouver pour la réalité qu'un roman puisse faire passer.
Réalité ou vérité ? Est-ce qu'on a dit les deux mots ?
Truth. Vérité.
And you know, because this idea of post-truth, which
cette idée de post-vérité dont tout le monde parle en ce moment, ou post-réalité, je ne sais pas, c'est très significatif.
Another phrase which I've heard.
Autre phrase que je viens d'entendre, utilisée par un commentateur américain.
Une véritisation.
Maybe this is when a statement
by a politician une déclaration politique n'est pas vraie.
Objectively speaking,
objectivement, ça peut être démenti par quelqu'un qui vérifie les faits, un fact-checker en franglais.
Mais
pour les gens qui l'entendent, ça semble vrai.
Which means it has a truthiness.
Donc ça a de la truthiness, de la véritabilité.
Dangerous concept, I think, because
c'est un concept extrêmement dangereux.
It suggests that
parce que ça suggère que
the twin responses of emotion
les réponses jumelles de l'émotion et de la raison qui sont très importantes
to hold in equilibrium,
d'être conservées à l'équilibre,
not to privilege one above the other,
de ne pas privilégier l'une par rapport à l'autre, l'émotion par rapport à la raison.
Is becoming distorted. There is
ça devient quelque chose de qui est un déséquilibre qui soit introduit là.
If I were to pinpoint the historical
si
moment,
je devais
when
désigner le moment historique
lorsque
ça a commencé
country,
à se produire dans mon propre pays.
Je
parlerai de septembre
1997,
la mort de la princesse Diane,
où lorsque
les Britanniques, pour la première fois, se sont livrés à l'émotion. Et dans ce cas-là, le deuil est devenu véritablement une force politique.
Et ça a
forcé un changement politique, petit mais significatif, qui était que la reine a dû s'adresser au peuple et montrer ses sentiments.
Et c'est contre cette truthiness, c'est contre cette vérité émotionnelle que se tient la vérité poétique de l'écrivain.
I think so.
Je le pense.
The novel is unique and the novel
le roman est
so
unique
important.
Et le roman est tellement important.
Set aside for a moment
parce que laissons de côté pour l'instant le fait que l'idée que moi, en raison des romans que j'écris, je dois m'en tenir à certains faits.
La fiction,
vous savez, le roman ne doit pas s'en tenir aux faits, mais il peut dire la vérité. Il peut raconter une histoire qui semble vraie, qui réconcilie cette réaction émotionnelle avec la conscience que ce que l'on vous raconte n'est pas littéralement vrai.
But does so in a way which is legitimate, which is
mais
acceptable.
Le fait d'une façon acceptable,
and is not the same,
légitime,
not the same at all,
et c'est pas du tout la même chose
as a politician telling a lie,
qu'un homme politique qui raconte un mensonge qui a l'air d'être vrai.
Merci Jonathan Coe pour ces précisions, c'est vrai, fiction, réalité, au fond, on est en plein là-dedans. Oui, on pourrait dire la vraisemblance en fait, hein, aussi, fiction, vraisemblance, aussi c'est au cœur hein, de ce qu'est le roman et les études sur le roman depuis de nombreuses années. On va parler, Jonathan Coe, maintenant de votre nouveau roman, numéro 11, dont le nom sonne comme un nom de code. Mais d'abord, on va écouter votre premier choix musical. Vous avez choisi Robert Wyatt, At Last I Am Free.
Thank you. please listen to what I say. I can't go on living life this way. I've tried to make you see. You call this love all this lying, my friend.
Robert Wyatt, At Last I Am Free, c'est le choix musical de Jonathan Coe qui est avec nous pour son nouveau roman numéro 11 qui paraît chez Gallimard, traduit par José Camoun. Pourquoi ce choix musical, Jonathan Coe? On sait que la musique joue beaucoup dans votre vie d'écrivain, vous avez même un moment hésité entre devenir écrivain ou musicien.
Yes, I did.
Oui, j'ai hésité.
But I've always felt close to Robert Wyatt.
Toujours senti proche de Robert Wyatt.
Music and his lyrics.
Sa musique, ses paroles.
This wasn't a song that he wrote. This
c'est pas quelque chose qu'il a composé lui-même. Hein. C'est une reprise de Chic.
But mais he's been a kind of beacon of inspiration
c'est
for me.
C'est un phare pour l'inspiration, parce qu'il est très engagé politiquement.
But his songs are very light, very ironic.
Ses morceaux sont très légers, très ironiques.
It's a political music which is full of doubt.
C'est une musique politique pleine de doutes, de questionnements, d'auto-questionnements, d'ironie.
Very English, I feel,
c'est
in that respect.
Très anglais, je pense, de ce point de vue-là.
Although Robert Wyatt, I know,
bien que Robert n'aime pas lorsque on dit cela de sa musique, mais bon, j'espère qu'il ne va pas entendre cette émission.
Ah oui, il écoute certainement, on va le prévenir.
J'aime cette chanson parce que ça parle de la liberté. Voilà, enfin libre, dit cette chanson. Mais pas comme beaucoup de chansons sur la liberté. Ce n'est pas puissant. Ça n'en fait pas trop.
It's a song about the kind of terrors of freedom in a way. At last I am free, so what am I going to do now?
Je suis libre, dit cette chanson, et que vais-je en faire? Je ne vois pas ce qui se passe à 2 mètres de moi.
Alors, numéro 11, les lecteurs britanniques, évidemment, dans cette référence au 11, ont tous reconnu Downing Street, hein, le numéro 11, là où réside le chancelier de l'échiquier et où se décide la politique économique du pays. Pour le lecteur français, le titre est plus mystérieux, comme ce livre d'ailleurs, qui est basé sur une énigme et bâti comme un bouquet d'intrigues autour de ce chiffre 11 comme la ligne 11 d'un bus de Birmingham, emprunté par l'une de ses héroïnes. 11 comme les 11 niveaux souterrains de certaines maisons de très très riches londoniens qui creusent dans le sol, vous en parlez, Jonathan Coe. Ce roman est d'ailleurs sous-titré « Quelques contes sur la folie des temps », comme si c'était donc un recueil de contes, comme si ces histoires n'avaient rien à voir entre elles. C'est faux, car tout se tient. Et tout se tient entre deux héroïnes, Rachel et Allison, qui naviguent sur 20 ans entre une classe moyenne paupérisée et l'arrogance d'une classe de super riches, dans un roman qui prend en compte et qui brasse les derniers développements de l'histoire immédiate de votre pays. L'ère Tony Blair et ses lendemains, le soutien britannique à l'intervention américaine en Irak, la crise financière de 2008, les émissions de télé-réalité, les coupes claires dans les dépenses publiques et les aides sociales, l'après People et xénophobe, l'agressivité des réseaux sociaux, l'optimisation fiscale. Et c'est un roman où on retrouve les fameux Winshaw, les descendants des héros malveillants de Testament à l'anglaise. Alors, j'ai pris ce livre, Jonathan Coe, j'ai ouvert la première page et j'ai vu que en exergue de ce livre, eh bien, il y a un auteur que vous citez qui s'appelle Jonathan Coe et le livre c'est Testament à l'anglaise. Il a fallu 20 ans pour donner une suite à Testament à l'anglaise.
Yes, many people have suggested to me over the years that I write a sequel.
Beaucoup de gens au cours des années m'ont dit que je devrais écrire une suite à Testament à l'anglaise.
I don't like the ideas of,
mais j'aime pas cette idée de suite de livres qui sont vraiment des pensées qui viennent après coup.
I wrote a novel called Le Cercle Fermé, which is a sequel to Bienvenue au Club, but it was planned.
Le Cercle Fermé, qui était une sorte de suite à Bienvenue au Club, mais c'était planifié comme ça. Ça a toujours été comme ça depuis le début. Et les deux livres...
C'est un diptyque, hein.
Oui, c'est un diptyque, exactement. Mais bon, le Testament à l'anglaise est un roman autonome qui a sa fin à la fin du roman. Et tous les personnages meurent. Donc c'est difficile d'écrire une suite dans ces cas-là.
But looking at the last 5 years of British
history, en regardant les cinq dernières années de l'histoire britannique, ce que l'on doit appeler probablement les années David Cameron, je peux voir beaucoup de continuités avec l'ère Thatcher. Et une continuité entre les diverses administrations qui sont arrivées entre les deux, Blair, Major, Gordon Brown, jusqu'à Cameron. C'est tout ça, c'était du thatcherisme. De plus en plus extrême. Et qui allait vers des extrêmes que Margaret Thatcher elle-même n'aurait jamais pu imaginer. Et parce que j'avais utilisé la famille Winshaw comme une métaphore de cette idéologie
set of power structures.
Et de ces structures de pouvoir, il semblait inconcevable que je pourrais écrire au sujet de cette époque-là sans faire référence à ces personnages. Donc ce n'est pas une suite en soi, mais il y a beaucoup de liens entre les deux livres. Et je voulais utiliser une citation de Testament à l'anglaise pour faire un petit signe au lecteur qu'il y avait ou qu'il y aurait des liens entre les deux livres, entre les deux romans.
Dans le recueil de textes critiques où vous réfléchissiez à votre travail, à votre parcours d'écrivain, qui s'intitulait en français « Notes marginales et bénéfices du doute », vous utilisiez pour Testament à l'anglaise le terme de « State of the Nation Novel », roman qui donne le pouls du pays. C'est un véritable genre en Angleterre, ce State of the Nation Novel, qui pourrait correspondre aussi à numéro 11. Et dans ce cas-là, dans quelle filiation littéraire vous vous situez ?
Pour moi, les grands anciens, ce serait... Parmi les grands anciens, ce serait Henry Fielding, avec son roman Tom Jones, qui fournit en quelque sorte un pont entre le roman picaresque, l'exemple le plus important, ce serait Don Quichotte, Cervantes,
et ce pont
entre donc Cervantes et le roman de l'État de la Nation. Qui arrive à la gloire au 19e siècle, avec Dickens et Thackeray. Donc il y a Vanity Fair de Thackeray, et Bleak House de Dickens et les autres romans de Dickens, qui fournit un panorama social depuis les membres les plus pauvres de la société jusqu'à l'élite la plus riche, et qui trouve des liens entre les différentes couches de la société et qui montre par ce récit que tout est lié finalement. Il y a toujours une certaine attitude ironique, de comédie dans ces romans, et typiquement ils se passent à Londres, la capitale étant la métaphore du pays en entier.
Mais pourquoi ce besoin justement de refaire 20 ans après ? Il y a eu Expo 58, entre-temps il y a eu d'autres livres qui n'étaient pas inscrits dans ce State of the Nation Novel, ce roman, disons, pour le traduire plus rapide, ce roman de l'état du pays, quoi. Qu'est-ce qui a finalement vous a donné envie de vous réatteler à ce type de roman, hein, donc hérité de Thackeray, de Fielding, on vient d'en parler.
Peut-être que j'utilise une certaine sagesse après coup, en projetant vers l'arrière ce que je sais maintenant. me sentir comme j'étais il y a 3 ans. Mais bon, je dois vous le dire quand même. Je sentais très fortement qu'on approchait d'une grande crise. Et qu'on ne pouvait pas continuer sur cette route avec ces énormes inégalités de richesse dans le tissu et que le tissu social commençait à se déchirer.
Certes, mais en tant que citoyen, mais en tant qu'écrivain, au fond, on parlait tout à l'heure de vérité poétique. On a parlé du réel, on a parlé de la fiction et de la réalité. Est-ce que quelque chose justifiait le fait de s'éloigner de l'imagination et de rester les pieds dans le réel, dans le State of Nation novel?
There are many different kinds of novel. I mean, if you look at a novel of mine.
De romans différents. Regardez par exemple mon livre La pluie avant qu'elle tombe. C'est très très loin d'un roman sur l'état de la nation. C'est quelque chose de totalement intérieur. Ça s'occupe de la vie psychologique et émotionnelle du personnage. Toute l'histoire se déroule dans une sorte de vide historique où il n'y a aucun sens de ce qui se passe réellement dans le monde extérieur. Et même chose chez Jane Austen, où le narrateur joue qu'avec les personnages. Il n'y a que de temps en temps une allusion où il y a une guerre, une grande guerre qui se produit quelque part ailleurs dans le monde.
Mais pour moi,
en m'étant éloigné de ce roman de l'état de la nation pendant une dizaine d'années, parce que Le Cercle Fermé était, disons, mon dernier roman qui s'inscrivait dans ce genre, j'ai senti que je ratais quelque chose sur le pays au sein duquel je vis. Et sur la façon dont les gens pensent et se sentent. Parce que la politique et les émotions, comme je l'ai dit précédemment, sont de plus en plus liées très étroitement. Et pour prendre un exemple extrêmement simple, il y a des gens qui sont allés voir des psys parce qu'ils étaient déprimés à cause du Brexit et par le résultat des élections américaines. C'est pas simplement des choses qu'on entend aux infos. Et puis voilà, bon, on éteint la radio et puis on continue à vivre. Non.
Je vais revenir un instant là-dessus, Jonathan Coe, parce que c'est très important. Vous venez de dire que, en gros, la politique et les émotions étaient de plus en plus liées. Tout à l'heure, dans la première partie, je vous parlais d'une concurrence. Est-ce que finalement, les politiciens sont pas en train de piquer le boulot des écrivains ? Vous pensez qu'il y a un véritable risque à ce que, si la littérature n'a pas les pieds vraiment dans le réel immédiat, elle puisse être en danger de mort ? Parce que les gens ne vont plus s'y intéresser, parce que ça ne parle plus de leur pays, parce que ça ne parle plus de leur quotidien.
There is a danger of that,
but, il y a un danger tel que celui-là.
You know, there's no particular evidence that people want to read
political novels. Il n'y a pas de preuve que les gens veuillent lire des romans politiques plus que autre chose ou plus que jamais. Non. Des livres sur la vie intérieure ou la fiction.
But the world becomes harder and harder to understand.
Mais le monde devient de plus en plus difficile à comprendre. Et en même temps, il devient de plus important que nous le comprenions. Et le roman peut jouer un rôle important. C'est aussi simple que ça.
Vous êtes aussi un satiriste, Jonathan Coe. Vous donnez à comprendre la réalité, le pays dans lequel vous vivez, la ville dans laquelle vous vivez, le monde dans lequel vous vivez, à travers la satire, à travers le rire. Vous vous moquez des gens qui font du stand-up, vous critiquez le rapport à l'information, vous décrivez des scènes extrêmement hilarantes, très cruelles aussi, sur la télé-réalité. Vous nous décrivez des choses qui ont l'air inventées, mais qui sont pourtant vraies. C'est-à-dire ces appartements dans lesquels les riches londoniens, enfin londoniens ou russes, ou ça peut être des riches étrangers, creusent la terre de Londres pour étendre, déployer leurs maisons, rajouter des étages supplémentaires, mais souterrains, l'un avec une piscine, une salle de jeu, des palmiers, sur 11 étages dans votre roman.
On a l'impression que tout cela repose à la fois sur la satire, mais aussi sur un formidable réalisme. Comment vous vous êtes documenté pour vous approcher à ce point de ce qui est devenu la réalité d'un londonien aujourd'hui ?
Number 11 was a very easy book to write. One of the quickest books I've ever written.
Numéro 11 a été un livre très facile à écrire pour moi.
It's divided into
très rapidement.
Five sections.
Il y a cinq parties.
With five separate stories.
Avec cinq histoires différentes.
And the third one, the central story, is very different.
Troisième, l'histoire centrale est très différente des autres.
It's a story of
C'est l'histoire d'une obsession.
It's a story of a man's state of mind.
L'état d'esprit d'un homme.
Gets drawn more and more
un homme qui est attiré de plus en plus vers une obsession nostalgique.
Takes over his life
jusqu'à ce que ça ruine sa vie, détruise sa vie.
This was a very difficult part of the book to write.
C'était une partie difficile à écrire.
This part of the book took
Cette partie-là m'a pris six mois.
The rest of the book,
le reste du roman.
The other four stories also
Les quatre
took six months
autres histoires m'ont pris
altogether.
Six mois, mais tout ensemble.
And, at times I felt that all I was
Par moments, je me suis senti que tout ce que j'avais à faire, c'était de transcrire la réalité.
The idea wasn't particularly to write,
L'idée n'était pas
satirical novel,
d'écrire un roman satirique ou d'écrire un livre rempli de choses absurdes ou comiques. Mais il me suffisait de regarder par ma fenêtre ou de lire les journaux, et c'était là. Tout ce sur quoi j'écris, dans l'histoire de cette famille qui creuse ce sous-sol énorme, mais tout ça est vrai. À part le fait qu'ils aient creusé 11 niveau souterrain. Ça, c'est une exagération. Mais il est vrai, par exemple, que un de ces oligarques très riches
a
construit une piscine
qui
a trois étages de souterrain parce qu'il voulait un plongeoir. Un autre oligarque voulait une chute d'eau dans son sous-sol.
Vous dites que le métier du romancier, finalement, pour ce livre-là, était presque uniquement de transcrire la réalité. En même temps, il y a quand même un travail de l'imagination, Jonathan Coe. Quand vous dites dans le livre, en tout cas quand un personnage est appelé pour estimer par un mystérieux comité la valeur du monstre du Loch Ness, en fait, qu'il faut évaluer financièrement, là c'est quand même l'imagination qui parle, l'exagération, Jonathan Coe.
It's a slight exaggeration.
Une légère exagération.
It's not a great exaggeration.
C'est pas une grande exagération.
I have a friend who sits on one of these committees.
J'ai un ami qui fait partie d'une de ces commissions. Et beaucoup des histoires qu'il m'a racontées sont vraies, à nouveau.
And on one occasion he was
Et dans un cas
asked to tell the owner of a house.
On lui a demandé de dire au propriétaire d'une maison quelle était la valeur ajoutée à sa propriété. Du fait que Wordsworth était assis derrière cette fenêtre-là et en regardant le paysage, avait écrit un poème.
Une
chose significative, c'était qu'il a dû estimer une valeur financière.
Et
ce que j'essaie de montrer dans numéro 11, c'est une société qui ne comprend qu'une sorte de valeur, et c'est la valeur monétaire. Tout est monétisé. Et ça revient à une discussion que nous avons eue précédemment, et au fait que les gens parlent aujourd'hui d'une dichotomie, d'une lutte entre le peuple et l'élite. Si on veut comprendre ce que ça signifie, élite, dans cette discussion, il faut oublier l'argent. Il faut parler de valeur en des termes non monétaires. Parce que Donald Trump, par exemple, en termes monétaires, fait autant partie de l'élite que qui que ce soit d'autre dans le monde. Mais les gens qui votent pour lui ne le considèrent pas comme faisant partie de l'élite. Ils me considéreraient moi comme faisant plus partie de l'élite que Donald Trump, en raison de certaines valeurs culturelles qui sont les miennes.
Il y a
Je vais vous citer hein, Jonathan Coe dans numéro 11. Roger était convaincu, à son corps défendant peut-être, que la vie était plus belle, plus facile, plus simple autrefois, quand il était petit. Ce n'était pas seulement une fixation sur l'enfance, ça allait au-delà. C'était lié à l'état du pays, tel qu'il se le figurait, en tout cas, dans les années 1960 et 1970. Vous dites ça, Jonathan Coe, en même temps, quand on regarde quelques interviews que vous avez données, vous expliquez que pour les écrivains, il y a de la nostalgie aussi, pour le statut de l'écrivain. Vous faites partie, c'est vrai, d'une génération dorée avec tout un nombre d'écrivains absolument flamboyants. Je parle de Martin Amis, par exemple, des gens dont vous dites que vous étiez souvent invité dans les médias aujourd'hui et que maintenant, et ça c'est une expression à vous, tout cela est passé de mode. La littérature n'est plus considérée comme quelque chose de capital. Même un John Le Carré pourrait marcher dans les rues de Londres sans craindre d'être dérangé. Pour les écrivains aussi, c'était mieux avant, Jonathan Coe?
No, I don't think it was better before.
Non, je pense pas que ça ait été mieux auparavant.
And you know, it's for one thing, just on a personal level, it's a horrible idea to be.
Sur le plan personnel, c'est quelque chose d'horrible d'être reconnu dans la rue.
When you're walking along and you,
lorsque vous vous promenez et que on n'a plus de vie privée. Et c'est ce qui est arrivé à Martin Amis, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il a déménagé pour vivre aux États-Unis et être quasiment anonyme. Heureusement, la seule personne qui m'ait jamais arrêté dans la rue et m'ait demandé un autographe, c'était un touriste italien. Mais la génération à laquelle vous faites allusion représentait un certain point de vue, une certaine classe, un certain groupe ethnique.
On pourrait dire.
Nous sommes tous blancs, mâles, de la classe
Julian
moyenne.
Julian Barnes, William Boyd William aussi, Boyd, voilà, hein, c'est toute cette génération-là.
Oui. Ian McEwan. Nous étions privilégiés d'avoir cette scène qui était la nôtre et que nos voix soient entendues parmi celles de tous les autres. Mais il est temps de l'oublier et de laisser place à plus de diversité.
Azadie Smith, Imbolombwe.
Exactly.
Oui, oui.
Tout à fait.
Quand vous regardez votre carrière, Jonathan Coe, quand vous vous souvenez que vous avez commencé à 8 ans avec une histoire de détective à la Sherlock Holmes, une trentaine de pages, je crois que votre père avait fait taper par sa secrétaire et que vous aviez publié d'ailleurs dans Testament à l'anglaise. Quand vous voyez aussi ce moment où vous aviez 15 ans et que vous commenciez à adresser vos manuscrits aux éditeurs anglais, comment vous voyez un peu cette carrière et est-ce que vous écrivez toujours de la même façon?
Je n'ai plus le même plaisir dans l'écriture, celui que j'avais autrefois.
And I feel that the writer's responsibility
et je sens que la responsabilité de l'écrivain est plus grave qu'elle ne l'était, ne serait-ce qu'il y a 10 ou 15 ans. La société en général se dirige vers des eaux dangereuses. Le rôle de la littérature devient plus important.
Et
avec cette importance, il y a plus de responsabilités et plus de choix difficiles à faire. Vous savez, donc cette joie innocente que j'avais de l'écriture, pas seulement quand j'avais 8 ans, quand j'étais ado ou quand j'avais une vingtaine d'années, même quand j'écrivais Testament à l'anglaise d'ailleurs, ça ne me vient plus aussi facilement.
Ça demande plus de travail aussi.
L'écriture est plus lente. Ça me prend plus de temps à concevoir un livre que ça ne m'en prenait autrefois. Les gens me demandent combien de temps ça prend d'écrire un livre. Je dirais, d'habitude, ça prend 3 ans. Mais en fait, 6 mois de ces 3 ans, c'est effectivement de l'écriture active. 2 ans et demi de ce temps sont consacrés à la réflexion, à la recherche, à concevoir une forme, et en fait, ce qu'on pourrait appeler rêver à l'advenue d'un livre. Et ce processus, pour moi, se ralentit et devient plus difficile.
Vous disiez, jamais peut-être le travail, la tâche de l'écrivain a été aussi importante dans ces eaux dangereuses qui s'annoncent, dans lesquelles nous allons désormais nager. C'était votre phrase, Jonathan Coe. Est-ce que, par là, vous dites aussi que le bruit des violences du monde est finalement beaucoup plus gênant ou beaucoup plus porteur qu'avant? On sent que la fête est finie. Quand on vous entend aujourd'hui, c'est plus la satire, les dialogues brillants, cruels. Ils sont toujours brillants dans numéro 11, mais on sent une mélancolie vraiment qui s'est installée. Est-ce que ce bruit du monde, là, a perturbé et est en train de perturber votre façon de concevoir la littérature?
I have a sense, a stronger sense than I did when I started. Of the competing discourses
j'ai
that the novel
un sentiment beaucoup plus fort que ce qui était le cas quand j'ai commencé à écrire sur les différents sentiments qui se battent.
And I don't just mean, new
je ne parle pas des nouvelles technologies qui fournissent de nouveaux accès au divertissement, bien sûr.
Long-form TV series on their
les gens
now.
Peuvent regarder
They
des séries TV entières sur leurs tablettes. Ils
But
peuvent regarder des films sur leur portable.
Mais
ce qu'ils regardent, c'est en fin de compte une forme classique de récit que nous connaissons depuis des décennies. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est les discours concurrents des médias sociaux, c'est-à-dire de Facebook, Twitter, d'articles en ligne. Il y a un véritable barrage d'artillerie d'informations conflictuelles dans lesquelles on peut s'immerger si on veut. On peut ne faire que ça toute sa vie, lire ces informations-là, et ça remplira votre temps. Et d'une certaine manière, la fiction, le roman, la poésie, le théâtre doit s'infiltrer là-dedans. Parce que c'est différent de ce discours-là. C'est contrôlé par un seul narratif, une seule intelligence. Ça raconte une sorte de vérité
que la littérature ne peut pas.
Que seule la littérature peut raconter.
Avant de se quitter, Jonathan Coe, on va écouter un dernier choix musical. Vous avez choisi Honegger, symphonie numéro 3, la symphonie liturgique d'Honegger, deuxième mouvement. Pourquoi ce choix musical?
This is a very dark, very serious piece of
music. C'est très sombre, c'est une musique extrêmement grave, composée par Honegger comme sa réaction musicale à l'occupation et aux événements de la Seconde Guerre mondiale. Pour moi, c'est la bande-son de cette époque. Et je crains que ça ait l'air un petit peu comme la bande-son des temps modernes.
Merci, Jonathan Coe.
Thank you very much, Christophe. It was a great pleasure talking to you.
C'est un plaisir de parler avec vous.
Et merci à Michel Zlotowski qui vous a interprété pendant cette heure d'émission. Donc on écoute la symphonie numéro 3 d'Honegger, la symphonie liturgique, deuxième mouvement, sous la direction d'Arthur Honegger lui-même. Et je rappelle, Jonathan Coe, les références de votre dernier roman numéro 11, c'est chez Gallimard et c'est traduit par José Camoun.
Thank you.
Et c'est l'heure de retrouver tout de suite notre libraire de la semaine pour son conseil de lecture. C'est un rendez-vous qui vous est proposé en partenariat avec livrehebdo.fr. Nous sommes cette semaine avec Charlotte Desmousseaux de la librairie La Vie Devant Soi, 76 rue du Maréchal Joffre. C'est à Nantes. Bonjour Charlotte Desmousseaux.
Bonjour.
Alors vous nous parlez de Élysée de Thomas Giraud, c'est publié à la Contre-Allée.
Oui, Élysée, Avant les ruisseaux et les montagnes, c'est un premier roman, une biographie imaginaire d'Élysée Reclus, le géographe que l'on connaît ou non selon sa...
Selon sa culture et ses passions.
Oui, voilà, tout à fait. Donc moi, j'avais déjà un petit peu travaillé son écriture que j'aime beaucoup. Et Thomas Giraud nous donne quelques axes, en fait, de la biographie d'Élysée Reclus, mais il a pris comme travail de... une bio dont il a extrait que quelques passages de l'enfance d'Élysée Reclus, en fait.
Lui, c'est-à-dire qu'il s'est appuyé sur une biographie qui existait, c'est ça ?
Oui, voilà, tout à fait. Entre autres, et sur aussi la correspondance entre les deux frères, entre Élie et Élysée. Et en fait, Thomas Giraud, il va plutôt partir de l'enfance et créer, du coup, une espèce d'enfance universelle très connecté à la nature, parce qu'Élysée Reclus, donc, qui va devenir géographe, se réfugiait beaucoup, en fait, dans la nature par rapport à un père, Jacques, qui voulait faire de lui un pasteur. Et Élysée sentait qu'il ferait pas ce choix-là, en fait, dans son enfance. Et il se réfugiait dans la nature pour avancer et dans sa détermination. Et il va, en fait, traverser la France. Donc, on est dans les années 1830-1840. Et il va traverser la France pour aller jusqu'en Allemagne à pied. Donc, ce qui est assez exceptionnel pour un enfant de 11 ans à cette époque-là, pour rejoindre son frère et entrer dans une école de pasteur où il ne restera pas. Et en fait, l'écriture de Thomas Giraud, moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus interpellée dans ce travail-là, parce que c'est une écriture qui est vraiment comme un éveil à la nature, en fait, comme quand on regarde un paysage à l'aube le matin et qu'on voit, en fait, naître et s'épanouir le soleil sur le paysage. Et c'est comme un refuge, en fait, cette écriture. Elle est comme un endroit où aller s'abriter sous un soleil ardent. Et c'est une écriture très juste, très simple et à la fois très évocatrice. Et il prend comme prétexte, pour moi, de la lecture que j'en ai eue, il prend comme prétexte Élysée Reclus. Mais c'est surtout pour parler de l'enfance et des moments où on peut encore faire des choix et se déterminer dans sa liberté, en fait.
Donc une ode à l'enfance, voilà, qu'on s'intéresse ou non à Élysée Reclus, figure passionnante, vous conseillez, en tout cas la lecture, la langue emporte tout sur son passage, hein, ça, ode à l'enfance, magnifique.
Oui, voilà, il y a vraiment, on retrouve en fait un petit peu la patte des éditions La Contre-Allée, qui sont aussi des histoires à hauteur d'homme, et c'est vraiment un très bel alliage entre la maison d'édition basée à Lille et le travail de ce jeune auteur nantais.
Thomas Giraud, Élysée, ça c'est qu'une partie du titre.
Oui, Avant les ruisseaux et les montagnes.
Voilà, Élysée, Avant les ruisseaux et les montagnes, aux éditions La Contre-Allée. C'était votre choix, Charlotte Desmousseaux, de la librairie La Vie Devant Soi, à Nantes. Vous allez accueillir quelques auteurs très bientôt.
Oui, vous pourrez retrouver à la librairie Pierre Sange le vendredi 25 novembre à partir de 19h15, qui viendra présenter des ouvrages qui lui tiennent à cœur dans un nouveau concept importé de Paris, de la librairie Caribe, qui s'appelle Libraire d'un soir.
Libraire d'un soir, donc 76 rue du Maréchal Joffre, hein, c'est ça, à Nantes, la librairie La Vie Devant Soi. Merci Charlotte Desmousseaux.
Merci.
Et bon vent pour cette belle librairie qu'est La Vie Devant Soi. C'était le temps des écrivains avec Avril Ventura, Anne-Laure Chanel et Philippe Mercher à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr cette heure que nous venons de passer avec Jonathan Coe.